Vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne. Vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 133. Edmond Grand-Georges, l'homme à la caméra, à Wissembourg. Ah, chers amis, bonjour. Un western, une comédie musicale, un policier, pour se souhaiter la bonne année. Allons, au Cinoche, la vraie vie est si moche. La vraie vie est ailleurs en 2026. On vivra encore par procuration en allant au cinéma. Bonjour Edmond Grand-Georges.
Bonjour Ambroise.
Vous êtes à Wissembourg au téléphone et moi ici en studio à Radio Judaïca Strasbourg avec mes vœux de bonne année, de bonne santé et de bonne nostalgie de tous mes films préférés comme celui de Dziga Vertov, hein, l'homme à la caméra, avec toute ma gratitude et c'est immensément sincère. Toute ma gratitude pour les ciné-clubs. C'est dans les ciné-clubs que j'ai appris à aimer la vie, même si c'était la vie par procuration. Et vous, Edmond Grand-Georges, vous êtes le monsieur ciné-club de Wissembourg. Alors c'est une aventure formidable depuis tant d'années. Alors je devrais dire aussi, Edmond Grand-Georges, vous êtes l'homme au projecteur. Hein, à Wissembourg. Alors, vous avez noté, je n'ai pas dit le ciné-club de mon adolescence, le ciné-club d'un temps passé. Alors, dites-moi, Edmond Grand-Georges, les ciné-clubs, est-ce que cela existe toujours ?
Oh, je ne sais pas si on peut dire qu'ils existent toujours. Ils existent peut-être, puisque nous voilà déjà en présence d'une émission qui va en parler. Mais je crois qu'ils sont quand même en perte de vitesse. Cela dit, si je réfléchis bien à cette question, il me semble que l'on dit que les ciné-clubs sont en crise depuis les années 60-70, c'est-à-dire c'est au moment où on a commencé, où on a fondé le nôtre, et donc malgré tout, on est toujours là. Mais on est toujours là un petit peu comme des morts vivants.
Oui, alors, les ciné-clubs, alors on a aussi en tête la dernière séance, mais c'était à la télévision, avec Edith oui. Mitchell qui passait des vieux films. Moi, l'image que j'ai du ciné-club, c'est le projecteur 16 mm qui tombait parfois en panne. C'était dans la salle des fêtes du lycée. Il y avait le bruit du projecteur qui couvrait le son du film. On allait, alors, en Alsace, on allait à la CRCC, ou à l'Ufolaïs. Alors l'Ufolaïs, pour les gens qui ne savent pas, c'est les œuvres laïques et quelque chose.
Et c'est précisément la fédération à laquelle nous sommes affiliés.
Vous étiez affilié, voilà. Alors la CRCC, c'était dans la cité administrative, et l'Ufolaïs, c'était là où il y a maintenant, où il y avait, les aviateurs. Donc les gens ne savent pas que quand ils vont aux aviates, pour s'encanailler le soir, en fait, c'était un grand haut lieu de culture cinématographique. Alors, bon, les ciné-clubs, ensuite, ils ont été plus ou moins remplacés par les cassettes VHS, et puis après les DVD, puis maintenant les MP quelque chose. Mais en fait, la nature même du ciné-club, c'était le débat après le film. C'est bien cela ?
Oui, c'est comme ça que nous avons procédé, donc déjà avant même la création de notre association, on a procédé de cette manière lorsque je faisais des projections au lycée Stanislas. Mmh.
Donc vous êtes prof, hein, enfin on va y revenir, oui.
Et donc à partir de ce moment, donc nous avions la projection dans cette petite salle du lycée, la projection du film. Le recours, effectivement, au 16 mm.
16 mm, oui. Voilà.
Et puis le débat à la fin du film. Donc ça, on était exactement dans les clous, hein, par rapport à ces projections. Par la suite, évidemment, il y aura eu quelques modifications, mais on en parlera tout à l'heure.
Oui, peut-être. Alors justement, vous étiez donc prof de cinéma à Wissembourg. Bon, je le dis tout de suite, avant vous étiez prof de latin, grec, enfin agrégé de lettres classiques. Alors j'imagine que le grand saut du grec au cinéma, est-ce que le cinéma c'est plus prestigieux que le grec ancien?
Finalement, peut-être un petit peu, oui.
Quand même, ah oui. Un petit peu. Bon, on pourra toujours en reparler, mais comment est-ce que ça a commencé à Wissembourg? Parce que Wissembourg est connu pour être un des premiers lycées expérimentaux. Alors ça c'est grâce à François Mitterrand et merci Jacques Lang. Et c'était le plus petit lycée qui avait obtenu cela, mais ils ont choisi Wissembourg. Pourquoi? À cause d'Edmond Grand-Georges, parce que vous aviez ce ciné-club. Quand est-ce que vous avez commencé le ciné-club?
Alors exactement, c'était l'année 1974.
Oui.
Donc vous additionnez un tout petit peu, on est à plus de 50 ans depuis que je m'en occupe, hein, puisque effectivement la fondation c'est moi qui avais pu la faire. J'avais eu la chance de me retrouver dans un bon groupe de discussion à Cannes au début des années 80, et j'avais proposé à ce moment-là les activités que l'on faisait déjà au lycée.
Mmh. Parce que le lycée est devenu en 81 ou 82, lycée cinéma.
Oui, alors 82, 83, 84, c'était un cinéma à titre expérimental. Et comme nous étions en période d'élection, le pouvoir qui était en place avait souhaité tout de même que l'on donne un caractère plus officiel à cet enseignement du cinéma. Et donc, on l'avait fait passer comme matière qu'on peut appeler obligatoire ou baccalauréat pour un certain nombre de lycées sélectionnés.
Alors ça, c'était vraiment original, quoi, parce que...
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, donc c'est à ce moment-là, ça avait été possible, effectivement, de décrocher avec, au départ, 12 autres établissements en France, de décrocher un enseignement du cinéma. Et les premiers bacs, donc, à partir des années 80-89.
Alors ça, c'est encore les années des célèbres Lagarde et Michard. Hein, ce sont les livres de culture ou de littérature française de la...
Oui, Lagarde et Michard avaient à peu près disparu malgré tout.
Ah, ils avaient déjà disparu, parce que j'allais dire, dans les Lagarde et Michard, il y a de la poésie, il y a du théâtre, mais il n'y a pas de cinéma. On ne parle pas de Citizen Kane dans Lagarde et Michard.
Oui, ou si on parle d'un film, peut-être dans Lagarde et Michard, ce serait Citizen Kane,
oui.
Point final.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais donc, les nouveaux livres de culture ou de littérature ou les livres des profs de français actuels, est-ce qu'ils ont des chapitres sur le cinéma?
Oui, bon, ça fait 20 ans que je suis à la retraite, donc je ne suis pas exactement...
Il n'y a pas d'âge pour la jeunesse.
Je ne suis pas exactement ce qu'il en est. Disons que... pas beaucoup de choses sont consacrées malgré tout au cinéma. Cela dit, c'est dans l'enseignement obligatoire du cinéma qu'on a vu apparaître effectivement des œuvres qui étaient au programme pendant 3 années. Je crois que les premières à avoir été sélectionnées, c'était La Règle du Jeu, c'était Le Mépris.
Voilà, Godard, La Règle du Jeu de Renoir.
Voilà, et puis le troisième, je crois que je l'ai oublié.
Ben, je crois que c'était Citizen Kane, justement.
Citizen Kane,
Oui, c'était la trilogie des bons films français, et puis aussi La Grande Illusion, mais qui était plus compliquée.
C'était plutôt la règle du jeu.
C'était la règle du jeu pour Renoir et tout. Oui. Mais alors, puisqu'on parle d'antiquité, enfin pour les élèves maintenant, enfin, quand on rencontre un jeune de 20 ans, on lui demande quel est ton film préféré, et c'est la question que je vais vous poser tout à l'heure. Il nous cite un film, il me dit « Oh, c'est un vieux film », c'est-à-dire un film qui est sorti il y a 3 ans. Hein.
Oui.
Donc, si on leur parle de L'Aurore de Murnau, qui est pour moi le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, ils tombent de leur chaise ou ils me regardent comme un dinosaure. Alors, ma question
pourtant,
avant de vous...
Ils sont obligés de le regarder un petit peu mieux, puisque L'Aurore a été mis au programme justement des élèves pour leur baccalauréat.
Et l'Aurore, en 2026, on célébrera son centenaire, le centenaire de son tournage. Voilà, et donc je me permettrai, parce que je fais des petites conférences de temps en temps, de faire une conférence justement sur le tournage de l'Aurore de Murnau, parce qu'on a plein de documents. François Truffaut était fanat de ce film, donc on a plein de documents assez intéressants, et c'est un bon sujet. Alors justement, vous savez qui a inventé le cinéma ? Ah ! Alors, ah, ne me dites pas Méliès.
Oui, voilà, c'est la raison pour laquelle je ne réponds pas.
Vous aviez ce blanc tellement éloquent, et ce rien qui est souvent l'apanage de notre chère émission, vous l'avez bien connu sur Radio Judaïca Strasbourg, cher Edmond Grand-Georges, et je vais vous dire qui a inventé le cinéma, c'est Gustave Flaubert. Et c'est lui qui a inventé en tout cas le mot de scénario, qu'il a emprunté à l'italien. On a ça dans ses... Alors, c'est en quelle année ? 1860. Il aurait pu rencontrer Méliès et ils auraient pu faire les choses ensemble. Et alors, bien sûr, c'est un gag de ma part de dire ça, mais Flaubert, lorsqu'il a, après le succès de Madame Bovary...
Oui, et puis 1857.
1857, exactement. Et ensuite, il a hésité et tout. Et puis, il s'est lancé dans Salambo. Il a lu 300 bouquins pour se renseigner. Les historiens disent qu'un vrai historien n'aurait pas pu faire mieux que lui. Il est allé sur place à Carthage pour prendre plein de notes dont il ne s'est jamais servi, mais c'était pour sentir l'atmosphère et tout. Et pourquoi je dis qu'il a inventé le cinéma ? Quand il écrit à Louise Collet, sa maîtresse, pour dire « ça y est, j'y vais, tu ne vas pas pouvoir me voir pendant quelques années parce que je rentre dans la guerre punique et tout », il est resté 3 jours allongé sur son canapé, à Croisset, dans son petit bâtiment qui était dans le jardin, et dans son pavillon, et il a fermé les yeux, et on a tout ça dans sa correspondance, parce qu'il lui fallait 3 jours pour faire un paragraphe, mais tous les soirs, il faisait une dizaine de lettres, comme Proust, qui faisait un courrier absolument dingue, et il a passé 3 jours à se faire le film, mais il ne dit pas le film, le scénario de Salambo. Et il a visionné dans sa tête, et il l'écrit, les batailles, l'amour. Alors il écrit l'amour au clair de lune, les éléphants devant Carthage. Il s'est imaginé tout cela dans sa tête. Et il dit même qu'il avait mal au dos à force de se battre dans les batailles. Comme pour Madame Bovary, il dit qu'il est allé vomir parce qu'il avait le goût de l'encre.
De l'arsenic.
Il dit l'arsenic couleur d'encre, alors que c'est blanc, mais il savait, il a fait exprès la faute. Voilà. Donc, pour les ciné-clubs, on peut commencer par dire que...
Je pense qu'on continuera malgré tout à garder les dates de 1895, malgré tout.
Oui, voilà.
Fondatrice.
Voilà, fondatrice.
En y ajoutant peut-être les Américains également.
Également. Et en mentionnant que les frères Lumière, malheureusement, se sont compromis avec les nazis pendant l'occupation. Mais ça, c'est... Voilà. Bon, comme quoi, ouais, c'est comme Brigitte Bardot qui est devenue une raciste, homophobe et tout. Donc, il y a toujours...
On lui pardonne,
est multiple. Je sais pas si on peut lui pardonner. Non.
On pardonnera parce que.
Non, il n'y a pas une histoire de pardon. Non. Ce serait une compromission que de lui mettre le drapeau bleu, blanc, rouge sur le cercueil. Mais voilà, on sort du cinéma. Et donc, on va passer tout de suite à cette question fameuse. Aimez-vous la tarte au fromage ?
Ah oui.
Ah, très bien.
Oui. Oui.
Et alors, est-ce que vous en faites vous-même ? Parce que c'est très compliqué.
Non, absolument pas. Non, voilà. Je laisse faire mon épouse.
Ah ben, très bien. Et alors, est-ce qu'elle met une petite goutte d'amande ou une petite goutte de vanille ou même certains de fleurs d'oranger ?
La fleur d'oranger, peut-être.
Ah, de la fleur d'oranger, oui, c'est ça. Mais le plus dur, c'est de faire une tarte au fromage assez légère et épaisse. Mais il y a des secrets, mais c'est compliqué. Oui. Bon, ça, c'est un gag qu'on a dans chacune de nos émissions. Et alors, la deuxième question, c'est quel est votre film préféré ?
L'Aurore a été citée tout à l'heure. Alors, je crois que c'est... Voilà. Cela dit, je ne l'aurais peut-être pas dit si vous n'aviez pas abordé la question.
Voilà.
Moi, je sais pas, j'aurais envie d'en citer au moins une petite demi-douzaine par rapport auxquelles j'ai été à un moment ou l'autre sollicité aussi dans mon travail, soit d'enseignant,
oui.
soit... Voilà. Alors, moi, je vais citer le Brigitte Bardot et Piccoli, enfin, dans Le Mépris.
Hein. Oui, pour lequel vous avez écrit un bouquin.
Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pondu une centaine de pages.
Est-ce que vous aimez mes fesses, Edmond ?
Oh là là, c'est vrai qu'on a entendu à nouveau la formule.
Ben voilà, oui. Et Piccoli était très... tout gêné, paraît-il. J'ai lu.
Pardon.
Il paraît que Piccoli était très gêné pendant cette séquence.
Oui, c'est possible.
Oui.
Il ne savait plus dans quel sens tourner son chapeau. Hein.
Voilà.
Je citerai quand même encore le septième saut,
oui.
pour lequel j'ai donc écrit un
également,
petit
oui.
dans,
mais Bergman, dans, parfois, il est un peu rébarbatif. Hein,
oui.
Pour
oui.
Les... oui. Bon, enfin...
Alors, citons quelqu'un d'autre de pas rébarbatif, du moins pas selon certaines... options qu'on peut avoir, c'est L'éternité un jour de d'Angelopoulos.
Ah oui, voilà. C'est un film c'est plus rare celui-là.
Voilà,
oui,
voilà. Alors tous ces films, j'en ai passé une demi-douzaine à Wissembourg, de tous les films d'Angelopoulos, qui n'étaient pas forcément toujours appréciés par le public, mais ceux qui l'appréciaient alors...
Venez vous oui, remercier, ouais. voilà. Donc c'est les voilà. films que vous amèneriez sur une île déserte. Alors moi je vais vous épater peut-être avec un film super grand public, mais que j'adore, que j'ai dû voir. Enfin, je pleure toujours à la dernière séquence, c'est Singing in the Rain. Ça c'est jubilatoire quand à la fin, bon donc c'est l'histoire du doublage hein, et quand à la fin l'héroïne part et Stanley Donen lui dit arrêtez là, c'est elle qui chante et tout, voilà, et puis il y a un fondu enchaîné à la fin, ça c'est voilà
et excellente, oui, excellente proposition,
voilà. Et donc pourquoi j'ai un trou de mémoire là, alors, Edmond, non, c'est pas voilà, je ne me souviens plus du nom de l'héroïne qui est aussi connue pour avoir joué dans Star Trek. Non mais elle est, oh, ça va me revenir, c'est
oui.
pas possible. J'ai toujours un trou avec cette héroïne.
Ah, mais moi, j'en ai en général un ou deux trous.
C'est toujours les mêmes. Voilà, donc Stanley Donen, il y a O'Connor et il y a Connie... Debbie
oui.
Reynolds, voilà.
Oui, voilà.
Debbie Reynolds, voilà, qui court et tout. Et alors, pour la petite histoire, Debbie... Alors voilà, ça c'est le genre de débat qu'on a dans un ciné-club, hein, pour revenir sur notre sujet. Debbie Reynolds, donc, elle double une autre actrice très connue, mais qui a une voix de crécelle. Et donc, on passe du film muet au film parlant, chantant. Eh bien, dans la réalité, au tournage du film, Debbie Reynolds avait une horrible voix et elle est elle-même doublée. Et tous les historiens du cinéma et tout, ils ont essayé de retrouver qui est la vraie voix de Debbie Reynolds dans Chantons sous la pluie. Eh bien, ils n'ont pas retrouvé.
Ah ouais.
Et alors, mais une voilà. autre petite anecdote très sympa que j'adore raconter, c'est que la scène où Gene Kelly danse autour du lampadaire, hein, avec la chanson I'm singing in the rain, eh bien, à la 20e prise, il trouvait qu'on ne voyait pas la pluie. Et son costume, qui était en flanelle légère, juste pour cette séquence, à force de prendre la flotte, il rétrécissait, il y avait les boutons qui sautaient, ils ne savaient pas quoi faire. Eh bien, quelqu'un, un accessoiriste, a eu une idée, parce qu'il y a eu du bruit tout d'un coup, et c'était le laitier qui passait avec le camion. Ils ont mis du lait dans le tonneau qui servait aux pompiers à verser l'eau pour le tournage. Et en fait, dans Chantons sous la pluie, c'est du lait qui tombe. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit... Voilà.
Ben, c'est le genre de petite anecdote que l'on voit actuellement, par exemple, dans les lancements de films. Non,
où, oui.
Encore récemment, quand j'étais... Au cinéma Star, on met deux, trois anecdotes de cette nature-là.
Dans les bonus
Dans les bonus.
Voilà. Mais alors, est-ce que justement, les bonus, les clips vidéo, tout ce qu'on trouve sur YouTube, ça remplace, entre guillemets, les débats à la fin du ciné-club?
Non. Alors ça les remplacera pas. Il se trouve simplement que la formule a un tout petit peu évolué. Je sais qu'à un certain moment, quand on a arrêté à la suite des projections, ça c'était même déjà dans les années 80, lorsqu'on a décidé d'arrêter finalement les débats, eh bien, ça nous a permis finalement, avec le public, c'était toujours autour d'une centaine de personnes quand même, pour le ciné-club, ça a permis effectivement de faire en sorte qu'il n'y ait pas dans la salle une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes qui restent pendant que les autres partent. Au moment où les lumières s'allument. Donc c'est à ce moment-là.
Il faut laisser les lumières éteintes.
Ah oui, alors ça, de toute façon, on les laissait éteintes. Et donc on a arrêté la formule du débat.
Oui. Faites des projections, alors ça s'appelle plus Ciné-Club, mais à la Nef à Wissembourg, oui, qui sont des films plutôt récents, hein, ce n'est pas des films, oui, disons, comme on appelle art et essai, il n'y a pas de débat ensuite? Il n'y aurait pas un public qui serait prêt à discuter?
Si. Un public, justement, et c'est un peu la question qu'on s'est posée, un public serait prêt à malgré tout, et puis on me l'a demandé parfois.
Oui.
Au bout de 20 ou 30 années de l'autre formule, on n'est pas revenu en arrière. Les films sont parfois longs, hein, ils sont passés au ciné-club, films chinois, japonais ou d'autres, Angelopoulos, puisque je le citais tout à l'heure, des films qui dépassent 2 heures, ce qui fait qu'on avait un public peut-être qui restait un peu ensemble, si c'est pas dans la salle, parfois à l'entrée de la salle. Voilà. Bon, c'est une chose qui se discute. La formule Ciné-Club subsiste un petit peu quand même parce qu'il y a une présentation et puis parce qu'il y a ces échanges, soit devant la salle, soit ailleurs, enfin autre que la formule du débat.
Alors Edmond Grand-Georges, vous êtes donc agrégé de lettres classiques et vous êtes allé tous les ans au Festival de Cannes. Alors, est-ce qu'il faut choisir livre ou film? Ou est-ce qu'on peut être fanat des deux?
On peut être fanat des deux.
Ah, mais il faut du temps, parce que...
Oui.
Vous avez vu, que vous voyez... Combien de films par an, par exemple? Je ne sais pas si vous comptiez.
Vous parlez pas de Cannes, non?
Je sais qu'à Cannes, que j'ai eu le plaisir de fréquenter, on voit 4-5 films par jour. Donc en 10 jours, on augmente la moyenne annuelle, parce qu'on s'est fait 50 films.
Oui.
Et puis...
On n'en voyait peut-être pas 40 ou 50 quand même. Hein,
si on commençait à 9h du matin, on y arrivait, oui.
Bon, disons, c'est par rapport à nous qui allions avec les élèves.
Et puis
on voyait 3-4, mais on ne restait aussi que 4 ou 5 jours à Cannes.
D'accord.
Donc, en général, on revient de Cannes encore aujourd'hui, hein, puisqu'on y va entre adultes cette fois-ci, entre amis, et puis qu'on fait déjà nos prochaines sélections. Pour la programmation, on fait cela tranquillement et on tâche d'en voir une quinzaine, une vingtaine. Et sur ces 15 ou 20 films, généralement, nous en retenons 2-3 pour le ciné-club.
D'accord. Donc vous allez au Festival de Cannes en tant que programmateur.
Oui, programmateur.
Voilà. Alors justement, parlons aussi d'une autre... Alors d'abord, première question par rapport à Cannes... Quelle est la plus belle rencontre que vous y auriez faite?
Rencontre en tant que...
Dans la rue, vous avez... Vous avez rencontré Isabelle Adjani qui a dit « Ah ben, ma nièce fait du cinéma à Wissembourg, c'est vous le prof, hein, enchanté ?» Non, c'est pas comme ça
que... Je crois que je n'ai fait aucune rencontre décisive à Cannes. Les gens que l'on croise sont affairés, baissent la tête, se dépêchent d'aller dans une salle. Et ce n'est pas à Cannes que j'aurais fait des rencontres par rapport au cinéma.
Mais à Wissembourg, alors?
Ça aurait été à Wissembourg, il y en a eu, effectivement. Oui.
Alors, grâce peut-être au Festival du film d'animation, hein, qui est un truc très original, que vous avez créé en 1997. Alors, c'est vraiment, à Gérard May,
un peu plus tôt, donc. Créé en 80... Oui, en 97, hein, vous avez dit. Oui, c'est, c'est, ex- exact.
Oui, oui.
Ça s'est mis en place un peu en 95, 96.
Alors, chaque ville, il y avait Avoriaz, il y avait chaque ville a une spécialité. Wissembourg, c'était les dessins animés. Enfin, oui, c'est pas les dessins animés, c'est les films d'animation. C'est pas la même chose.
Les films d'animation, oui, puisque finalement, la technique qui est utilisée dépasse bien largement ce qu'on appelle simplement dessins animés. Cela dit, malgré tout, très souvent, les critiques même gardent la notion de dessin animé quand ils parlent des films de Miyazaki, par exemple, alors que c'est plus complexe que cela.
Est-ce que vous avez eu des élèves qui sont devenus réalisateurs de cinéma?
Oui, alors j'ai eu pas mal ou un petit nombre d'élèves qui ont poursuivi des études en cinéma. J'en ai en particulier une d'entre elles qui est devenue réalisatrice, dont les films sont passés au festival d'animation, sont passés à Annecy même. Donc une élève qui était une élève que j'ai eue à Wissembourg, qui a également tissé des liens avec le directeur du festival d'Annecy, Marcel Jean, et qui a eu la possibilité de travailler au Canada, par exemple.
Ah oui, alors j'imagine qu'elle revient un jour présenter un de ses films à la Nef à Wissembourg, et elle va vers vous en disant « Ah, monsieur le professeur, c'est grâce à vous !» Ça doit être très émouvant. Ça fait un peu la fin du film, clap de fin, et donc c'est c'était l'épisode numéro 133 de « Vous l'avez bien connu » sur Radio Judaïca Strasbourg, Edmond Grand-Georges, l'homme à la caméra à Wissembourg. Mais au fait, est-ce que vous avez écrit des scénarios? Est-ce que vous avez réalisé des films?
Non.
Non.
Si ce n'est que dans les exercices que nous avons faits avec les enseignants, qui étaient mes collègues également, au tout début de l'histoire du cinéma et de l'audiovisuel. Mais sinon, la partie vraiment qui m'intéressait avant tout, c'était la partie analyse de films et une histoire du cinéma. Voilà.
Donc, dans votre vie, vous n'avez eu que la fiction des autres, pas la vôtre.
Voilà.
Vous l'avez bien connu, tous les mardis à 11h30 et le dimanche à midi. La semaine prochaine, on restera dans le domaine du spectacle, théâtre et comédie musicale, à la technique Thomas Marinelli. Et bonne journée, Citizen Edmond. My name is Ambrose Perrine.
Two fellows meet, like you and I. No connection between them whatsoever.